Radio Cité Genève, Viviane DeVitte,
la bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois un personnage très touchant, à l'énergie très positive qu'il a mise au service de l'investissement à impact social, on va expliquer ce que c'est, Tim Radji. Bonjour Tim.
Bonjour.
Alors Tim, tu es un ami de ma fille, tu es jeune. On peut te demander ton âge.
Oui, j'ai 44 ans.
Donc c'est l'âge où on a commencé à réussir et savoir comment sa vie va être dessinée. Tu as fondé Alpha Mundi il y a plus de 12 ans maintenant. Mm-hmm. Est-ce que tu peux dire un mot à nos auditeurs et on passera après au personnage que tu es?
Avec grand plaisir, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc Alpha Mundi, c'est une société qui est basée en Suisse, qui est consacrée à la finance d'impact. Et c'est une société que j'ai voulu constituer après avoir travaillé plusieurs années en banque, parce qu'il me semblait qu'il était nécessaire d'essayer de développer des produits d'investissement qui permettaient aux investisseurs d'allier leurs valeurs personnelles à un rendement, et puis aussi qui permettaient de favoriser l'essor du développement durable, dans notre cas, dans les pays en voie de développement, donc l'Afrique et l'Amérique latine.
Alors, on va te poser une question rituelle dans cette émission. Quel petit garçon étais-tu ?
J'étais un petit garçon heureux et gâté. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a ouvert beaucoup de portes grâce à l'éducation qu'ils m'ont offerte.
Que faisaient tes parents?
Mes parents travaillaient, donc mon père travaillait pour les Nations Unies et ma mère travaillait pour différentes organisations internationales comme la Croix-Rouge. Et donc on a eu la chance d'avoir à la maison un constant va-et-vient d'invités et d'amis qui travaillaient dans cette sphère du développement, avec aussi bien sûr les amis de Genève qui étaient banquiers essentiellement ou avocats. Et donc on a toujours eu un pied dans le secteur privé, un pied dans le secteur public, et puis cette conscientisation dès mon enfance de la chance qu'on avait par rapport peut-être à d'autres membres de notre famille qui sont encore en Amérique latine.
Alors il faut que tu expliques justement ta double origine en fait.
Ah oui, d'accord. Ma mère est née au Chili, mais elle est d'origine bolivienne, sa famille vient de Bolivie. Mon père est né en Iran et a été éduqué en Angleterre. Et en fait, c'est curieux parce que ma famille d'origine bolivienne est venue en Suisse à la fin des années 50, suite à des troubles politiques et sociaux en Bolivie. Et on peut dire la même chose de mon père, qui est venu en Suisse suite à la révolution iranienne à la fin des années 70. Et donc, on a vraiment trouvé en Suisse une terre d'abri, un refuge, qui nous a permis d'avoir une vie assez enchantée. Mais sans oublier, bien sûr, nos racines et puis la cause de ce déracinement qu'ont vécu mes grands-parents et mes parents.
Oui. C'était douloureux dans ton enfance, ça te semblait présent?
Je pense que pour mon père en tout cas et pour sa génération, c'était beaucoup plus douloureux parce que c'était plus récent comme traumatisme, le fait de devoir quitter sa patrie d'origine, devoir tout laisser, abandonner sa culture d'une certaine façon, c'est difficile. Se rétablir dans un pays comme la Suisse, bien sûr, c'est un privilège, mais ça demande aussi un certain effort. Et pour l'Amérique latine, c'est un petit peu la même chose. Mes grands-parents étaient parfaitement conscients de la chance qu'ils avaient de pouvoir se relocaliser en Suisse, mais en même temps, c'est pas une culture latine. Il leur a toujours manqué certaines choses de leur pays d'origine. Et grâce à eux, j'ai pu apprendre l'espagnol et ça m'a permis plus tard de reconnecter avec mes racines et de rétablir des ponts avec l'Amérique latine.
Alors, tu étais donc un petit garçon heureux. Toi, absolument. Tu n'as pas subi donc ces traumatismes. En fait, tu ne les as pas sentis chez tes parents ou très peu. Mm-hmm. Tu étais un bon élève à l'école?
Pour les matières qui m'intéressaient, oui. En général, on peut dire que j'étais un bon élève, parfois un peu dissipé pour les choses qui ne m'intéressaient pas. J'ai terminé l'école assez jeune. Mes parents étaient d'avis qu'il fallait vraiment attacher beaucoup d'importance à l'éducation, surtout quand on est peut-être la deuxième génération à s'intégrer dans un pays. Donc j'ai fini l'école à l'âge de 16 ans. J'ai obtenu ma maturité. Je suis arrivé à l'université à l'âge de 17.
Tu n'as pas été un si mauvais élève que ça, alors?
Donc non, mais en revanche, peut-être... Sur ce sujet-là, je pense que j'avais un certain manque de maturité quand je suis arrivé à l'université, ce qui m'a coûté une année en droit, et puis ensuite une réorientation sur la science politique qui s'est avérée mon sujet de prédilection. Donc j'ai eu une bonne éducation, oui, c'est vrai, mais j'ai mis du temps à mûrir.
D'accord. Et alors après, comment es-tu arrivé dans la banque ?
Alors la banque, c'était à la fin de mon époque universitaire. Les banques sont venues se présenter sur le campus. Et puis il y avait une offre d'emploi qui était assez intéressante pour un jeune universitaire, parce que c'était des bons salaires, c'était des propositions à l'époque de formation financière. Donc j'étais un peu l'exception dans le cadre des universitaires qui sont fait recruter par les banques à cette époque-là, vu que j'étais plutôt politologue, j'avais un background d'historien. Et donc j'ai réussi à intégrer la banque, mais j'ai souffert les deux premières années. J'ai dû rattraper en matière de connaissances financières ce que d'autres avaient déjà acquis à l'université.
Beaucoup de travaux du soir, alors ?
Oui, pas mal. Et des week-ends.
Et des week-ends. Ouais. D'accord. Et alors, un jour a germé cette idée. Je crois que tu t'ennuyais un peu dans la banque, hein, c'est ça ? J'ai lu un article du Temps à ce propos.
Oui, c'est vrai. Non, en fait, j'ai découvert un monde fascinant. Moi, à l'origine, je voulais juste faire 2 années dans la banque pour avoir une certaine connaissance financière, ensuite passer à des thématiques de développement durable. Mais je me suis rendu compte que la banque était beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche comme univers que ce que je pensais. Donc, je suis resté plus longtemps que ce que j'avais prévu. Donc, je suis resté 7 ans. Enfin, j'ai fait une année chez Morgan Stanley Capital International et puis ensuite 7 ans à l'UBS.
Ça, c'est un vrai parcours de banquier.
Ouais. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des chefs qui, dans l'ensemble, étaient vraiment très intéressants, très intéressés aussi par le développement de ma carrière et de mes capacités. Donc c'était vraiment un beau parcours. J'ai découvert des gens qui parlaient souvent avec le cœur. On s'y attend peut-être pas dans le monde de la banque, mais et donc j'ai fini dans le Family Office Group de UBS à Zurich. Et là, on a développé un service de conseil en philanthropie qui s'appelait UBS Philanthropy Services, qui existe encore aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a permis finalement de retrouver mes velléités initiales de contribuer au développement durable. Mais cette fois-ci par les marchés en capitaux, par les grandes fortunes, par les services financiers.
Tu parles combien de langues ? Parce que si tu as travaillé à Zurich, tu parles l'allemand aussi.
Alors, je parle allemand, peut-être pas aussi bien que je le devrais, mais j'ai quelques bases et je parle aussi italien, espagnol et anglais.
C'est une belle formation, ça. C'est assez impressionnant. Si tu veux bien, on va écouter l'une des musiques que tu as choisies et je vais te la laisser annoncer.
Donc là, il s'agit de Kid Rock, All Summer Long, vu qu'on est en juin et qu'on a finalement retrouvé des températures estivales. Je crois qu'on peut célébrer ça avec cette chanson.
On l'écoute.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life. The way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things. And we were smoking funny things. Making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle. Not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Sun. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Thank you.
strange is when the leaves began to change. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again.
Man, I'd like to see that girl again.
And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. We were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. 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 Singing Sweet Home Alabama.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2, dans la bouteille à moitié pleine, avec Tim Radji, que l'on vient de présenter, et qui a fondé Alpha Mundi il y a plus de 12 ans. On va maintenant expliquer ce que c'est, Tim.
Avec plaisir. Donc Alpha Mundi, c'est une société suisse qui est consacrée à la finance d'impact. La finance d'impact, c'est un concept, une approche d'investissement qui a émergé il y a à peu près une dizaine d'années, qui donne suite à différents efforts de développement durable, dont la microfinance. Et en fait, simplement, c'est financer des nouveaux modèles d'entreprise qui nous permettent de faire la transition vers une économie beaucoup plus durable. Donc, c'est des modèles d'entreprise qui donnent accès aux pauvres aux services financiers, qui financent l'agriculture organique et durable, qui financent la consommation saine, l'accès aux énergies renouvelables. Enfin bref, toutes ces dimensions qui sont nécessaires à un développement durable au niveau planétaire, qui sont nécessaires à la réduction de la pauvreté dans le monde et qu'on peut approcher aujourd'hui grâce à nos nouvelles connaissances par des instruments financiers classiques. C'est un des objectifs de la finance d'impact, c'est de complémenter l'action des États et l'action philanthropique avec la mobilisation des marchés en capitaux pour arriver à des solutions à grande échelle.
Alors, c'est beaucoup de choses en même temps. On va les reprendre une par une pour D'accord. que nos auditeurs puissent comprendre, parce que c'est un bouquet de possibilités, d'ouverture, de progrès, de développement. On va commencer par le début. Donc, ça se passe dans des pays. Toi, tu as choisi en fait d'aller en Bolivie, qui était donc la terre de tes grands-parents et arrière-grands-parents. Et puis, tu as choisi d'aller au Kenya. Mmh. Et alors, ça se passe techniquement comment ?
Alors en fait, on a créé un fonds qui s'appelle le Fonds Social Alpha, qui est basé au Luxembourg. Et ce fonds, qui est alimenté d'investisseurs privés européens, prête des montants qui vont de 200 000 dollars à 2 millions de dollars à des petites et moyennes entreprises en Amérique latine et en Afrique qui travaillent dans ces secteurs qui nous permettent de réduire la pauvreté et préserver l'environnement.
C'est essentiellement de l'agroalimentaire ?
Alors, on a à peu près un quart de notre portefeuille dans l'agroalimentaire, un quart dans les énergies non renouvelables, un quart dans la microfinance et la fintech, et un quart qu'on réserve à l'innovation pour aller dans des nouveaux secteurs comme par exemple les logements sociaux et dignes.
Alors, la microfinance et fintech, qu'est-ce que tu peux en dire plus à nos auditeurs ? Parce qu'ils ne sont pas tous spécialistes, ils n'ont pas tous fait des études pour être banquiers.
Non, non, bien sûr. Alors, la microfinance, c'est un secteur qui maintenant a bientôt une quinzaine d'années en tant que secteur d'investissement commercial. C'est un secteur qui visait avant tout à offrir l'accès à des services financiers pour des gens qui n'avaient pas de compte bancaire, qui n'avaient pas de connaissances financières particulières. Donc, on parle d'un segment de la population qui est essentiellement pauvre et rarement éduqué, mais qui ont quand même besoin de cet accès la finance pour pouvoir se développer, pour pouvoir satisfaire à leurs aspirations pour une vie digne pour eux et pour leurs enfants. Et donc la microfinance a commencé il y a une quinzaine d'années sous forme commerciale, mais c'est une mouvance qui émerge dans les années 70 au Bangladesh et au Brésil, On a le professeur Younous, par exemple, qui a reçu le prix Nobel pour cette innovation. Et aujourd'hui, ça représente environ 30% du secteur de la finance d'impact. Donc la finance d'impact, aujourd'hui, c'est environ 500 milliards de dollars investis, et dont 30% vont à la microfinance et au fintech. Le fintech, c'est un peu la version 2.0 de la microfinance, à savoir que c'est des applications téléphoniques qui rendent encore plus facile l'accès à des services financiers dans des pays où souvent l'infrastructure n'est pas encore au même niveau que dans les pays en voie développée, que les pays développés. Donc, par exemple, en Afrique, la majorité des consommateurs ont un téléphone portable et peuvent accéder grâce à ce téléphone à des services financiers, alors que se rendre sur place pour un bureau de banque, c'est toute
impossible.
Une aventure.
Oui, c'est impossible. Il faut aller à pied à travers...
Des distances et puis des routes qui sont souvent peu praticables. L'autre avantage de la microfinance, c'est qu'une majorité de ses clients qui sont des femmes. Donc c'est le premier instrument d'investissement à large échelle qui donne un rôle prépondérant aux femmes en matière de développement. Et c'est aujourd'hui une grande thématique aussi, c'est celle du rôle des femmes dans le développement. Les femmes comme investisseurs, les femmes comme employées, les femmes comme consommatrices et aussi les femmes comme directrices d'entreprise. Et on espère avec la finance d'impact par Alpha Mundi et par d'autres entreprises qui la pratiquent donner le beau rôle aussi aux femmes qui souvent ont été délaissées par l'économie.
Alors j'ai lu cet article, ce fameux article du Temps dont j'ai parlé tout à l'heure, qui décrivait assez bien Alpha Mundi. Vous avez commencé par, je crois que c'était en Bolivie, donc à découvrir un fruit. Qui était plein d'antioxydants.
Ah oui, absolument.
Tu peux raconter ça parce que c'est très intéressant.
Ça, c'est notre premier investissement dans l'agroalimentaire. C'était en fait en Équateur, donc juste à côté de la Bolivie. C'est une entreprise qui s'appelle Terra Fertile. Et en fait, ils ont créé un nouveau marché pour un super fruit qui s'appelle le Golden Berry. Donc, ça ressemble à une grande cerise jaune. Et c'est un super fruit qui a énormément de qualité naturelle et qui n'était pas connu des marchés internationaux et qui peut être produit essentiellement en altitude dans les montagnes de Colombie et d'Équateur, là où est concentrée la pauvreté extrême pour les petits agriculteurs. Donc c'est vraiment l'ouverture d'un marché qui est extrêmement bénéfique parce que ça crée des nouveaux revenus pour ces agriculteurs pauvres et délaissés. Mais ça crée aussi toute une gamme de nouveaux produits sains pour les consommateurs européens et américains. Et donc cette entreprise, pour résumer une grande aventure en quelques mots, a été rachetée par Nestlé l'année passée après plusieurs années de collaboration financière avec Alpha Mundi. Et donc on espère qu'ils continuent leur chemin de croissance et d'échelle au sein de cette multinationale suisse qu'est Nestlé.
Et là, il y avait eu un retour sur investissement incroyable pour les investisseurs qui avaient prêté de l'argent.
Absolument, oui. On a la chance de... Donc je peux dire quel était le rendement pour notre fonds. Donc on a gagné en moyenne 11% par année en dollars grâce à cet investissement. Et bien sûr, les investisseurs en capital de l'entreprise ont gagné davantage encore.
Et quel est le montant minimal pour investir dans Alpha Mundi?
Alors, le montant minimal est de 150 000 dollars parce que c'est un montant minimal déterminé par la loi. Malheureusement, la majorité des investissements de la finance d'impact sont classifiés comme investissements alternatifs. Pourquoi ? Parce qu'on investit dans des entreprises qui ne sont pas listées en bourse. Donc, il y a peu d'informations disponibles de façon publique. Ça demande une certaine expertise pour déterminer les risques de l'investissement. Et donc, la majorité des investissements de la finance d'impact sont qualifiés d'investissements alternatifs. Donc, sont réservés à des investisseurs qualifiés. Et c'est pour ça qu'on a un montant minimum assez élevé de 150 000
dollars. Alors, qu'est-ce que c'est que des investisseurs qualifiés ?
Alors, les définitions varient en fonction des pays, mais en général, des investisseurs qualifiés sont des gens qui ont un certain patrimoine financier, typiquement 2 millions de francs suisses ou plus, et qui peuvent justement investir un minimum de 150 000 par ticket d'entrée.
Sans que ça pose problème.
Exactement.
C'est ça. Ouais. Et alors, toi, ta vie, c'est quoi ? C'est de sauter d'un avion dans l'autre ? Parce qu'il faut les trouver, ces petites entreprises.
Oui, c'est énormément
ces
de voyages.
Ces micro-entreprises.
Mais bon, ça me permet de découvrir le monde et de voir l'envers de la médaille, parfois, ce qui est intéressant aussi. Donc, je ne découvre pas l'Afrique et l'Amérique latine uniquement comme touriste, mais aussi je vois les réalités socio-économiques de ces pays-là. Je rencontre à la fois les grandes fortunes de ces pays et puis les micro-fortunes, donc les agriculteurs, les micro-entrepreneurs. Donc, c'est une vie fascinante.
Alors justement, ça tombe bien, parce que qu'est-ce qu'on écoute maintenant?
Alors la prochaine chanson, c'est Marc Anthony, qui va nous chanter Vivir mi vida. Et pour moi, c'est toute l'énergie de l'Amérique latine qui va déferler sur
donc
vos ondes.
Donc c'est Vivre ma vie en français.
C'est Vivre ma vie, absolument.
On écoute.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2, dans la bouteille à moitié pleine, avec Tim Radji. Tim Radji qui a fondé Alpha Mundi, on vient de voir ce que c'était, donc c'est financer des entreprises qui combinent un fort impact social et une pérennité financière en Afrique, en Amérique du Sud. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cette évolution d'une économie traditionnelle à une économie durable, parce qu'en fait, c'est ça, tout le centre de ta démarche.
Oui, absolument. Je pense qu'on se trouve, chaque génération a son défi, et le nôtre, c'est de pouvoir faciliter cette transition vers un paradigme et une économie durable au niveau planétaire. On est tous au courant des conséquences du changement climatique. On est tous conscients du besoin d'évoluer vers une économie circulaire.
Qu'est-ce que c'est qu'une économie circulaire?
Une économie circulaire, c'est une économie qui minimise la pollution, qui responsabilise la production et la consommation. Donc, aujourd'hui, par exemple, on a les Nations Unies qui ont édicté 17 objectifs de développement durable et on sait maintenant comment on peut les réaliser, mais il faudra une mobilisation du secteur privé pour y aboutir. Donc, on a par exemple en Suisse l'agenda 2030 qui vise justement à faciliter ces transitions. Et peut-être le défi le plus important, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire avant d'arriver à des seuils qui sont irréversibles en matière de changement climatique, en matière de pollution.
On a combien de temps, on le sait ?
On a une dizaine d'années avant d'arriver à ces seuils, dans le meilleur des cas. Malheureusement, oui. Alors, on a aujourd'hui des systèmes, grâce aux médias sociaux, grâce à la technologie, qui nous permettent d'accélérer ces transitions. Mais au final, ça reste une décision humaine. Les dirigeants des entreprises, des fonds de pension, des banques doivent prendre la décision d'être responsables et de pouvoir répondre à la nouvelle génération, emblématique grâce à Greta Thunberg, par exemple. Toute cette nouvelle génération qui a conscience des défis et qui a conscience aussi du manque d'action satisfaisante de la part des adultes que nous sommes. Donc je crois qu'on est en Suisse et à Genève très bien placés pour pouvoir répondre à ces défis parce qu'on a la dynamique rive droite, rive gauche. On a à Genève, et il y a peu de cités dans le monde qui ont ce bénéfice, à la fois la présence de grandes organisations internationales comme les Nations Unies, la Croix-Rouge, et puis un centre de compétences énorme qui est celui de la place financière. Et donc si on arrive à créer une dynamique de collaboration entre ces deux rives, on arrivera à faciliter et accélérer la transition vers une économie durable qui requiert des objectifs sociaux et d'intérêt public, mais aussi la mobilisation de capitaux privés. Comme on l'a vu récemment, on a le VVF, qui est d'ailleurs aussi basé en Suisse, qui a annoncé qu'on avait eu une perte moyenne de 60% des espèces animales entre 1974 et 2014. On a Oxfam qui, lors du rassemblement annuel à Davos, a annoncé que 26 milliardaires avaient la même fortune personnelle que 3,8 milliards des personnes les plus démunies dans le monde. Donc on voit... maintenant, on a l'information sur des grands déséquilibres au niveau planétaire et il faut qu'on rééquilibre un petit peu les dynamiques de croissance pour assurer la pérennité de nos sociétés.
Alors, quand on t'écoute, on a l'impression que tout est facile parce que tu as déjà développé tout ça, mais je crois que tes premières années, c'était assez galère. Hein.
Oui. Alors, en général, créer son entreprise,
c'est
une grande aventure. Oui. Mais en plus, quand on essaie de changer le monde et de changer le paradigme financier, le modèle financier, dans notre cas, juste après la plus grande crise financière qui a eu lieu, donc c'est
oui,
en 2008-2009.
2008, exactement.
Voilà, donc les gens étaient assez peu sensibles à des nouvelles propositions de produits financiers. Mais aujourd'hui, l'industrie de la finance d'impact a fait ses preuves. Donc, on a une association globale qui s'appelle le GIIN, le Global Impact Investing Network. Et le GIIN publie chaque année une étude de marché qui est renforcée par l'étude de marché de l'association suisse, la Swiss Sustainable Finance. Et on voit dans ces études annuelles deux grandes tendances. La première, c'est que les rendements sont au rendez-vous. Donc aujourd'hui, on peut être durable tout en étant profitable. Ça, c'est très important.
Mais c'est essentiel.
C'est essentiel pour pouvoir convaincre davantage d'investisseurs de s'engager. Et d'autre part, on s'aperçoit qu'il y a une dynamique de croissance énorme, avec des croissances qui vont de 30 à 50% par année des volumes engagés pour la finance durable.
Comment décrirais-tu tes équipes, les gens avec qui tu travailles? Comment ça se passe? Parce qu'on est curieux de ça.
Alors, je dois dire que la qualité humaine dans notre secteur, c'est ce qui m'a attiré au secteur et c'est ce qui rend mon quotidien si satisfaisant. Donc, c'est des gens qui agissent avec le cœur, mais qui aussi agissent avec des compétences hybrides extrêmement développées, des compétences financières, des compétences de mesure et d'analyse d'impact. Ils ont l'intelligence aussi de l'écosystème dans lequel ils opèrent, comprendre la réalité politique qui est nécessaire pour pouvoir ensuite développer des modèles qui peuvent grandir à niveau national ou bien même international.
Alors aujourd'hui, tes deux terrains de prédilection, c'est toujours la Bolivie?
L'Amérique latine et l'Afrique.
L'Amérique latine en général.
Alors, je dois avouer que j'ai évolué à titre personnel de la Bolivie, où sont mes racines familiales, à la Colombie, qui est notre quartier général pour l'Amérique latine. Je me suis marié il y a 2 mois à une Colombienne.
D'accord, félicitations.
Merci beaucoup. Merci. Donc là,
beaucoup de bonheur.
C'est gentil. Quand on épouse la Colombie, on a le bonheur au quotidien. Ça, c'est vraiment vrai. Ouais, ouais. C'est une des cultures les plus amicales qu'on puisse imaginer au niveau mondial.
C'est joli ce que tu dis.
Et puis aussi, ils ont réussi à avoir un accord de paix après plus de 30 ans de guerre civile. Donc c'est vraiment un pays qui se remet de beaucoup de lésions et de vulnérabilités et qui a tout à offrir. Et je pense qu'il est emblématique de l'Amérique latine qui pendant longtemps avait une réputation d'être une destination de fêtes et de voyages. Mais aujourd'hui, c'est aussi un centre d'innovation fintech, c'est un centre de développement durable, c'est le poumon du monde avec l'Amazonie. Donc c'est une région extrêmement importante pour les objectifs de développement durable.
Et en Afrique, alors tu es installé où ?
En Afrique, on a choisi d'être basé en Afrique de l'Est, à Nairobi, au Kenya. Donc l'Afrique de l'Est, c'est vraiment un hub de l'investissement durable et de l'investissement en général. Ce sont des pays qui maintenant sont relativement stables au niveau macroéconomique et politique et qui nous permettent d'opérer de façon très productive. On a bien sûr des défis énormes de marché inefficace encore en Afrique.
Qu'est-ce que c'est le marché inefficace?
Un marché inefficace, par exemple, c'est la grande chaîne d'intermédiaires qui connecte l'agriculteur au consommateur. Et donc, on a investi dans une entreprise qui s'appelle Twiga Foods, à titre d'exemple, au Kenya, qui permet de simplifier cette chaîne d'intermédiaires.
Pourquoi c'est compliqué? Donc, l'agriculteur ne trouve pas de débouché, c'est ça?
En fait, l'agriculteur
Ou
vend...
Ou c'est un problème de transport des marchandises?
C'est un problème de logistique. C'est vraiment un problème de logistique. Donc, l'agriculteur vend un intermédiaire qui en vend un autre, etc. Donc, il y avait typiquement 17 intermédiaires qui connectaient l'agriculteur.
À chaque fois, ça augmente les prix.
Exactement.
Ouais. Et ça alourdit tout.
Ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Donc, on avait une énorme perte de la production alimentaire en chemin. Et puis, on avait aussi une perte des profits qui allaient à des intermédiaires plutôt qu'aux agriculteurs. Et donc, Twiga Foods a résolu ça grâce à la technologie.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant?
Alors, la prochaine chanson, c'est Keala Seetal qui chante This Is Me. C'est une des chansons de la bande originale du film The Greatest Showman Theme. Et c'est vraiment une chanson sur l'affirmation de l'identité, avoir confiance en soi, apprendre à se connaître et puis ne pas avoir peur d'afficher ses valeurs.
C'est pas mal adapté, ça, Tim.
Radio Cité Genève, Viviane Devitt.
La bouteille à moitié pleine. To be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a blood. Drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me.
gonna drown a man. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Tim Radji qui a fondé Alpha Mundi. On a vu que c'était en fait de combiner des entreprises qui ont un fort impact social avec une pérennité financière en Afrique et en Amérique du Sud. Alors tu prépares, je crois, en octobre, quelque chose de très important, Tim. Tu peux nous en parler ?
Avec plaisir. Donc, au 30 juin, on va arriver à 10 ans de pratique, 10 ans d'investissement d'impact pour notre entreprise à travers notre fonds social Alpha.
Donc, Alpha Mundi.
Donc, Alpha Mundi marque les 10 ans d'investissement avec des résultats très positifs, à la fois financiers au niveau de l'impact. Donc, en termes financiers, notre fonds a eu une performance positive chaque année depuis son lancement.
Et a réussi... C'est de quoi rassurer les investisseurs
voilà,
futurs.
Donc, pour montrer que ça peut marcher et de façon durable. Et puis, on a aussi eu un impact sur environ 10 millions de personnes, donc des gens pauvres d'Amérique latine et d'Afrique, qui ont, grâce aux produits et aux services financés par notre fonds, pu réduire leur pauvreté et puis avoir une vie plus digne.
Je crois que tu as mis aussi 39% de femmes au travail, c'est ça ?
Oui, c'est juste, oui, absolument.
Ouais. Important ça aussi, parce que les femmes, comme tu le disais tout à l'heure, sont souvent les oubliées de l'économie dans ces pays émergents.
Oui, et c'est un de nos objectifs pour les 10 prochaines années, c'est de promouvoir de façon beaucoup plus active le rôle de la femme dans les entreprises de notre portefeuille et en matière générale pour le développement durable. Donc pour le mois d'octobre, on a envie de partager un petit peu les leçons qu'on tire de ces 10 ans de pratique. On n'est pas les seuls. L'industrie de la finance d'impact marque aussi ses 10 ans cette année.
Il y a beaucoup de monde dans la finance d'impact ou...
De plus en plus.
De plus en plus. Alors, on a une idée de la quantité de gens impactés par la finance d'impact.
Alors ça c'est... je pense qu'on a plusieurs centaines d'investisseurs qui sont sortis du bois et qui s'affichent aujourd'hui comme investisseurs d'impact, donc privés, fondations, institutionnels. Ils financent des milliers d'entreprises qui, elles, financent des dizaines de milliers de postes d'emploi qui sont au service de centaines de milliers de bénéficiaires. Donc voilà, je pense qu'en termes d'ordre de grandeur, on parle...
Et tout le monde est basé à Genève ou est-ce qu'il y en a d'autres dans d'autres régions du monde ?
Non, en réalité, la finance d'impact est née dans les marchés émergents. Donc même si on a les produits qui sont développés en Europe ou aux États-Unis essentiellement, ces produits investissent dans les marchés émergents et servent des bénéficiaires qui sont des familles démunies de ces mêmes pays en voie de développement. Aujourd'hui, il y a un changement de conscience parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de développement durable en Europe aussi, aux États-Unis aussi. Donc on voit l'émergence de produits de finance d'impact pour l'Europe et pour les États-Unis. Et c'est vraiment une très, très belle dynamique qu'on souhaite accompagner pour les 10 prochaines années. En octobre, on organise un événement à Genève en collaboration avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, en collaboration avec l'association Sustainable Finance Geneva et l'association suisse de finances durables. Ce sera les 8, 9 et 10 octobre à Genève. Et l'objectif, c'est d'une part d'éduquer le grand public des investisseurs en matière de finances durables, de leur rappeler que la finance durable offre des rendements très attractifs qui sont similaires aux rendements des marchés traditionnels.
C'est incroyable quand on entend ça parce que
c'est
on a l'impression que c'est de la philanthropie et ce n'est pas de la philanthropie, c'est important de le dire.
C'était tout l'objectif de notre démarche.
C'en est sur le plan sociétal, sur le plan social.
Oui, oui.
Mais ça n'en est pas financièrement.
Non.
Et c'est ça l'important.
Oui, c'est juste. Toutes nos démarches s'inscrivent au service de l'intérêt public. Et pendant les 10 premières années de la finance d'impact, l'objectif, c'était de démontrer qu'on pouvait le faire de façon rentable. Donc maintenant, c'est chose faite. On a démontré année après année et de plus en plus à plus large échelle que c'est possible. Et notre objectif maintenant, c'est de montrer aux institutionnels comment est-ce qu'ils peuvent s'engager dans la finance durable par leur portefeuille. Et donc, on aura 2 jours et demi de débat avec beaucoup d'entrepreneurs qui viennent pour démontrer les modèles innovateurs qu'ils ont développés pour cette transition écologique. Et puis, on espère pouvoir inspirer différents investisseurs privés et institutionnels à l'action.
Alors là, vous avez un rôle d'accompagnement, d'initiation, d'éducation, tout simplement.
Absolument. Mais l'éducation ne suffit pas. Il faut vraiment que ça se transforme, que ça se traduise par l'action. Donc l'objectif de ces événements, c'est que suite à ces événements, on puisse avoir des engagements fermes et publics de différents investisseurs privés et institutionnels pour 2020. Que vont-ils faire pour contribuer à cette transition vers une économie durable ?
En fait, il faut expliquer que la planète est entrée dans une nouvelle ère et que c'est super important d'agir pour le développement durable et réveiller les gens. Parce que tu disais tout à l'heure, si on a un maximum de 10 ans,
ouais,
c'est ultra important. Tu sais, en ce moment, le développement durable, on le prend pas toujours par le bon côté parce que l'écologie paraît souvent punitive. Alors, pas de voiture, pas... alors qu'on laisse les avions et les énormes bateaux polluer les mers, ça paraît, on vous dit prenez pas de bain, tu vois, laissez pas couler l'eau quand vous vous lavez les dents. Bon, alors que c'est vraiment des gouttes d'eau et c'est assez punitif. Les gens ressentent ça comme punitif.
Mmh.
Et là, tout à coup, tu ouvres d'immenses pans de choses positives.
Oui.
C'est extrêmement important.
Je pense que par la technologie et l'innovation, c'est vraiment très important de montrer qu'il n'y a que des bénéfices pour les gens qui sont prêts à faire cette transition, que ce soit au sein de votre vie quotidienne, à domicile ou bien dans le cadre de votre entreprise. Cette transition est possible et amène à beaucoup d'avantages plutôt que des sacrifices.
Alors, pour soutenir le rôle de Genève, donc ta ville, tu as créé des prix qui récompensent des initiatives. Tu peux nous en parler de ça ?
Oui, ça, c'est une nouvelle idée. On crée les prix de la finance d'impact. On veut récompenser les meilleures entreprises en termes de transition écologique, transition vers un modèle plus équitable socialement. Et donc, on a fait un appel à tous les gérants de fonds qui ont investi dans ces entreprises pour qu'ils nomment les meilleurs candidats. Et on annoncera les résultats de cet appel de prix en octobre à l'événement qu'on organise à Genève.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on écoute ?
Alors, la prochaine chanson, c'est Stevie Wonder qui chante Heaven Help Us All, un appel d'aide parce qu'on en a besoin.
Je crois que c'est vraiment tout à fait à propos.
Radio Cité Genève, Viviane De Witte.
La bouteille à moitié pleine.
Heaven help the child who never had a home. Heaven help the girl who walks the streets alone. Heaven help the roses if the bombs begin to fall. Heaven help us all. Heaven help the black man if he struggles one more day. Heaven help the white man if he turns back away. Heaven help the man who kicks the man who has to crawl. Heaven help us all.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2, dans la bouteille à moitié pleine, avec Tim Radji. Tim, est-ce que tu peux nous résumer le développement durable, d'une part, dont on a beaucoup parlé, et l'économie d'impact ? Deux sujets.
c'est difficile, mais j'ai essayé. Donc, au niveau du développement durable, on a les 17 objectifs de développement durable qui ont été déterminés par les Nations Unies pour nous permettre de rééquilibrer certains grands déséquilibres auxquels on fait face au niveau planétaire. Donc, il y a le changement climatique, il y a le besoin d'une économie circulaire pour réduire la pollution de la planète, et puis l'inéquité sociale qui a aussi été résumée par Oxfam en début d'année, qui listait le déséquilibre entre les milliardaires qui ont la même fortune, les 26 premiers milliardaires ont la même fortune que presque 4 milliards d'êtres humains. Donc, dans le cadre de cet effort de développement durable, on veut mobiliser la finance, transformer la finance pour en faire une finance plus responsable, une finance engagée pour financer cette transition vers une économie durable. Et c'est pour ça qu'on a développé l'outil de la finance d'impact. La finance d'impact, c'est une finance qui se veut d'abord transparente, parce qu'on mesure l'impact social et environnemental de nos investissements. C'est une finance qui se veut rentable, parce qu'on offre des rendements qui sont similaires à des instruments et des opportunités du marché traditionnel pour le même niveau de risque. Et puis c'est une finance qui se veut innovatrice, parce que finalement on doit innover, on doit créer des nouveaux modèles d'affaires qui tirent parti des nouvelles technologies, qui tirent parti des nouvelles connaissances pour offrir une économie durable pour tous.
Tip, tu as l'air d'un homme heureux, parce que je pense que lorsqu'on consacre sa vie, non pas seulement à faire de l'argent, mais à une grande cause, à une cause immense, à une cause planétaire, ça rend heureux. Je vois ça dans tes yeux, je regrette qu'il n'y ait pas la télévision.
Non, c'est vrai. Et puis, on rencontre des gens d'une telle qualité quand on travaille dans ce domaine, qu'on ne peut être qu'heureux, on peut être qu'inspiré par leur exemple. Ils font un travail colossal, souvent dans l'ombre, et c'est grâce à des émissions comme celle-ci qu'on arrive à attirer l'attention et peut-être rendre hommage à tous ces héros de l'économie durable qui travaillent dans des conditions parfois difficiles.
Je crois que tu as perdu un ami d'ailleurs au Kenya.
Oui, alors ça c'était en début d'année, il y a eu une attaque terroriste au Kenya, une attaque qui ensuite a été, on a déterminé que c'était des terroristes évidemment africains. Je pense que ce genre d'attaque terroriste reflète vraiment la frustration de beaucoup de gens sur la planète en termes d'économie durable. Ils n'ont pas d'opportunités de développement, ils n'ont pas de dignité dans leur pays, donc ils sont sujets à des messages très négatifs. Et donc on a perdu quelqu'un qui s'appelait Jason Spindler, quelqu'un qui avait de façon incroyable survécu aux attaques du 11 septembre à New York. Il travaillait dans l'une des deux tours, mais il était en retard au travail.
C'est incroyable.
Et il s'était tout de suite engagé aux côtés des pompiers de New York pour aider à extraire des décombres les victimes de ces attaques terroristes. Il avait ensuite changé d'orientation professionnelle. Il avait quitté Goldman Sachs pour travailler à créer une entreprise qui était consacrée au développement durable en Afrique. Et malheureusement, il était victime de cette attaque terroriste à Nairobi. D'ailleurs, en son hommage, on va offrir un prix de finance d'impact de l'innovation qui sera offert pour la première fois en octobre à Genève.
C'est beau ça aussi. C'est beau ça aussi. Alors, écoute, tes amis te décrivent comme un personnage qui est un bourreau de travail. On imagine très bien que tu n'as pas pu créer tout ça en 12 ans sans effectivement sauter d'un avion dans l'autre et travailler comme un fou. Mais aussi qui aime faire la fête.
Oui, c'est vrai. Je pense qu'au final, être en harmonie avec soi-même, c'est très important. Avoir un équilibre de vie, c'est aussi très important. Ça permet d'être durable dans sa démarche. Et dans les premières années, quand je travaillais pour la banque, c'est vrai que j'ai beaucoup profité des avantages qu'offre une carrière bancaire.
C'est tranquille.
En tout cas, des bons revenus qui permettent de voyager, de faire la fête. Et puis aujourd'hui, je pense que peut-être je suis un peu plus tranquille. Je me suis marié il y a 2 mois à une femme formidable qui s'appelle Sandra, qui est colombienne.
Est-ce qu'elle t'aide dans ta démarche ?
Non, alors elle est plutôt dans le marketing.
D'accord.
Elle a le cœur bien placé, donc elle veut aussi s'inscrire dans une démarche philanthropique qui serait complémentaire à mes activités professionnelles. Mais non, j'essaie de garder une certaine
distance avec la maison, entre la maison et le travail. Sinon...
Dans la mesure du possible.
Oui, ça c'est très difficile.
Oui, bien sûr. Mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie d'être entouré d'amis formidables qui ont aussi été patients avec moi pendant que je construisais mon entreprise, parce que ça demande des absences qui m'ont fait perdre des anniversaires, des séances de Noël avec les enfants de mes amis. Mais j'ai une famille et un groupe d'amis qui sont vraiment formidables. Et je crois que quand on s'engage pour le développement durable, on crée une sorte de karma très positif qui attire à nous des gens aussi très positifs.
C'est très important ce que tu dis là, mm-hmm. parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs et tu sais qu'à travers les podcasts, on est écouté dans 122 pays. Radio mm-hmm. Cité Genève, donc, est écouté dans 122 pays. Et je suis certaine que tu vas faire des émules, tu vas convaincre des jeunes qui t'entendent, ou même des moins jeunes, pourquoi pas, de rejoindre cette immense aventure qui est d'essayer, au fond, de pousser la finance à sauver le monde. C'est quand même très paradoxal, ça, ce que tu nous as expliqué pendant toute cette émission.
Oui, c'est sûr. Je pense que je ne peux qu'encourager les gens qui veulent se joindre à nous, parce qu'on a besoin de talent, on a besoin d'énergie. On est un secteur en plein essor. On grandit typiquement de 30 à 40 % par année. Et donc Alpha Mundi comme entreprise et tous ses pairs dans le secteur de la finance d'impact ont besoin de cette nouvelle énergie pour arriver à nos objectifs.
Alors, qu'est-ce qu'il faut comme compétences pour vous rejoindre ?
Alors, on a besoin de compétences hybrides, on a besoin de compétences en matière de gestion organisationnelle, de gestion d'impact, de gestion philanthropique, et d'autre part, les compétences financières, administrateur financier d'entreprise ou administrateur de portefeuille pour arriver à nos fins.
Et comment est-ce qu'on peut, en dehors de contacter Radio Cité Genève, comment est-ce qu'on peut vous contacter, te contacter si on veut vous rejoindre ?
Alors, par email info@alphamundi.ch.
D'accord.
On est facile à trouver sur Internet, autrement par les associations d'industrie, que ce soit le GIN, The Global Impact Investing Network, qui est l'association globale, ou bien Sustainable Finance Geneva, qui est l'association locale, on peut facilement nous trouver.
Mon cher Tim, on arrive trop vite à la fin de cette émission, beaucoup trop vite, et j'espère vraiment que tu vas venir à nouveau pour nous parler de ces sujets qui sont centraux. Comme on l'a dit, on a moins de 10 ans maintenant pour changer le monde. Eh bien, je voudrais te remercier et je voudrais dire à tous nos auditeurs que j'avais annoncé un personnage très touchant, à l'énergie très positive, qui avait mis toute son action au service donc de l'investissement à impact social. Je pense que nos auditeurs ne sont pas déçus. Alors merci d'être venu nous en parler. Reviens bientôt. Et puis on remercie Olivier Steinmetz qui a enregistré cette émotion. Et ensemble, on va écouter ton dernier choix. Qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit de Patrick Bruel, Qui a le droit, qui est une chanson touchante, mais qui se fait aussi l'écho de la frustration, je pense, de la nouvelle génération en termes des promesses faites par les adultes et qui ne sont pas tenues.
Alors on écoute. Et
merci.
À bientôt.
Merci.
Pour une nouvelle émission avec toi, certainement.
Avec plaisir.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
On m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais, petit, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. On m'avait dit, faut écouter son père. Le mien a rien dit quand il s'est fait la paire. Maman m'a dit, t'es trop petit pour comprendre. Et j'ai grandi avec une place à prendre. Qui a le droit? Qui a le droit? Crois vraiment
ce que disent les grands. On passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. On m'avait dit, les hommes sont tous pareils. Il y a plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul soleil. Oui, mais le soleil, il brille ou bien il brûle. Tu meurs de soif ou bien tu bois des bulles. À toi aussi, je suis sûr qu'on t'en a dit de belles histoires. Tu parles que des conneries. Alors maintenant, on se retrouve sur la route avec nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à des enfants qui croient vraiment ce que disent les grands? On passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. Qui a le droit? On passe sa vie. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment.